l'émission. Je vais donc travailler ici un texte assez court, et essayer de vous montrer comment Diderot peut utiliser concrètement quasiment cette imagination pour faire, pour transformer les idées de ses lecteurs. Alors, la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient paraît en 1749. Les propos de Diderot dans ce texte sont vraiment profondément choquants pour ses contemporains. C'est un texte qui va le mener en prison pendant 3 mois à la prison du château de Vincennes. Alors, bien sûr, il est déjà surveillé, mais c'est vraiment la publication de cet opuscule qui convainc le lieutenant général de police Berryer de le faire incarcérer. Alors, nombre de ses contemporains ont eu des problèmes avec la censure, mais vous allez voir que les positions matérialistes et sceptiques de Diderot, notamment en matière de morale et de religion, ont vraiment de quoi scandaliser largement ses contemporains. Alors, c'est ces aspects que je vais étudier, parce que c'est là qu'il utilise et il joue avec l'imagination. Mais pour mieux comprendre, je vous propose d'abord de faire un petit détour par la conception de l'imagination à l'époque moderne et au XVIIIe. Je me suis servi simplement de l'encyclopédie, et l'article sur l'imagination n'est pas de Diderot mais de Voltaire. Il paraît en 1766 dans le 8e volume de la première édition. Et en fait, on peut remarquer que l'imagination y est définie de manière très classique pour l'époque comme le pouvoir que chaque être sensible éprouve en soi de se représenter dans son esprit les choses sensibles. Cette faculté dépend de la mémoire. On voit des hommes, des animaux, des jardins. Ces perceptions entrent par les sens, la mémoire le retient et l'imagination les compose. On n'a pas de différence dans ce type de définition avec ce qu'on pouvait avoir chez Descartes ou chez Hobbes. Vraiment, l'imagination comme faculté de former des images à partir des sens et de les recomposer autrement, donc dans sa double puissance. Néanmoins, la manière dont les choses sont présentées ici n'est pas non plus innocente, parce que les sens y jouent vraiment un rôle essentiel. Ils permettent de percevoir les objets sensibles, et c'est à partir de cette perception que l'imagination peut fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité sensible, c'est-à-dire ce corps, d'une certaine manière, pour pouvoir imaginer. Ça veut dire que, d'une certaine manière, la capacité d'imagination telle que définie ici, ce type d'imagination ne serait pas accessible à Dieu, par exemple, qui ne peut intervenir ici. Et Voltaire en est extrêmement conscient quand il définit l'imagination sous cette forme, parce que tout de suite, par prudence, il fait immédiatement référence à Dieu en montrant le rôle qu'il joue après. Il est très essentiel, écrit-il, de remarquer que ses facultés de recevoir des idées, de les retenir, de les composer, sont au rang des choses dont nous ne pouvons rendre aucune raison. Ces ressorts invisibles de notre être sont dans la main de l'être suprême qui nous a fait et non dans la nôtre. Peut-être ce don de Dieu, l'imagination, est-il le seul instrument avec lequel nous composions des idées et même les plus métaphysiques. Alors, vous remarquez ici qu'on passe de l'imagination comme composition purement d'images au monde des idées. Et l'explication vient immédiatement après, avec l'exemple, par exemple, du triangle, dont l'idée du triangle vient des triangles qui ont été vues comme absolument toutes les notions abstraites. Il le dit explicitement pour la grandeur, la vérité, la justice, le fini ou l'infini qui vont venir s'ancrer à partir de l'expérience. Mais ce mot grandeur est-il autre chose qu'un mouvement de votre langue qui frappe l'air si vous n'avez pas l'image de quelque grandeur? Que veulent dire ces mots vérité, mensonge si vous n'avez pas aperçu par vos sens que telle chose qu'on vous avait dit existait en effet et que telle autre n'existait pas? Et que cette expérience ne... Et de cette expérience, ne composez-vous pas l'idée générale de vérité et de mensonge? Et quand on vous demande ce que vous entendez par ces mots, pouvez-vous vous empêcher de vous figurer quelque image sensible qui vous fait souvenir qu'on vous a dit quelquefois ce qui était et fort souvent ce qui n'était pas? Alors, on voit vraiment comme les sens jouent un rôle déterminant dans cette faculté et pour l'imagination et aussi pour les idées. Et Voltaire va vraiment l'affirmer avec insistance. Il dit encore par la suite: ainsi tous vos raisonnements, toutes vos connaissances sont fondées sur des images tracées dans votre cerveau. Vous ne vous en apercevez pas. Mais arrêtez-vous un moment pour y songer, et alors vous voyez que ces images sont la base de toutes vos notions. C'est au lecteur à peser cette idée, à l'étendre, à la rectifier. On est vraiment dans une perspective empiriste, et c'est exactement la même position que celle que prendra Diderot dans sa lettre sur les aveugles. Mais là, le parallèle va plus loin. Regardez la manière dont s'exprime ici Voltaire. On voit qu'il fait déjà appel à l'imagination. Il demande au lecteur de détendre l'idée, d'y penser. Et vu ce qu'il a dit avant, cette manière d'étendre les choses, de faire des parallèles, doit se faire par le biais notamment de l'imagination. Mais la suite de son explication semble encore faire davantage référence à la lettre de Diderot, parce que l'imagination est vraiment abordée par la suite à partir des aveugles et des aveugles de naissance. Évidemment, si toutes les connaissances se viennent à partir des sens et que l'imagination a besoin de la sensation, ben, l'aveugle de naissance est dans une position tout à fait particulière et on peut se demander comment lui va pouvoir penser et imaginer les choses. Et c'est ce qu'explique Voltaire. Le célèbre Addison, dans ses 11 essais sur l'imagination, dont il a enrichi les feuilles du Spectateur, dit d'abord que le sens de la vue est celui qui fournit seul les idées à l'imagination. Cependant, il faut avouer que les autres sens y contribuent aussi. Un aveugle né entend dans son imagination l'harmonie que ne frappe plus son oreille. Il est à table en songe. Les objets qui ont résisté ou cédé à ses mains font encore le même effet dans sa tête. Il est vrai que le sens de la vie de la vue fournit seul les images. Et comme c'est un espèce de toucher qui s'étend jusqu'aux étoiles, son immense étendue enrichit plus l'imagination que tous les autres sens ensemble. Alors, est-ce qu'il n'est pas abusif de voir une référence à la lettre sur les aveugles de Diderot ici, parce que simplement la question de l'imagination à partir de la sensibilité suggère déjà d'aller se questionner sur les aveugles. Et c'est en plus une question qui fascine particulièrement les penseurs de l'époque. Mais je crois qu'on peut vraiment affirmer qu'il y a un lien avec la lettre de Diderot à cause de cette image. C'est comme une espèce de toucher qui s'étend jusqu'aux étoiles, qui là n'est pas une image anodine. Et on verra que chez Diderot, il y a vraiment cette idée d'un aveugle qui aimerait voir ses bras s'allonger à volonté pour aller palper la lune. Et là, je crois qu'on a un parallèle vraiment clair et que cette particularité-là ne peut pas être innocente. Alors, maintenant, je vais revenir à la lettre de Diderot proprement dit et vous montrer un peu les jeux de déplacement qui se font par le biais de l'imagination. Alors, à première vue, tout éloigne le texte de la fiction et des jeux de l'imagination. Diderot commence par exposer les circonstances réelles qui l'ont amené à se poser ces questions. Et il fait référence à l'aveugle né dont M. de Réaumur a fait abattre la cataracte et qui a de ce fait retrouvé la vue. Mais il dit qu'il n'a pas pu assister à l'expérience et découvrir ses premières impressions une fois qu'il a recouvré la vue. Cela pourrait permettre de faire glisser les choses du côté de l'imagination parce qu'il dit ben, finalement ce n'est pas très grave si je n'ai pas pu y assister, je peux quand même philosopher à partir de là. Mais tout de suite il dit j'ai été interrogé un autre aveugle, l'aveugle de Pizou, et il insiste à nouveau sur les circonstances réelles qui ont encadré cette rencontre. Alors à moins de soupçonner qu'il fait appel à ce processus très courant, surtout dans la littérature à l'époque, qui fait qu'on insiste d'autant plus sur les circonstances réelles qu'on est justement dans la pure fiction, il faut bien voir qu'il y a en tout cas une insistance tout à fait particulière sur la réalité, et s'il y a déplacement, c'est un déplacement réel d'un aveugle à un autre. Mais très vite, les déplacements s'opèrent par le biais de l'imagination. Notamment lorsque Diderot montre que l'aveugle ne se considère absolument pas comme inférieur à nous qui voyons. Notre aveugle nous dit à ce sujet qu'il se trouverait fort à plaindre d'être privé des mêmes avantages que nous et qu'il aurait été tenté de nous regarder comme des intelligences supérieures s'il n'avait éprouvé 100 fois combien nous lui cédions à d'autres égards. Cette réflexion nous en fit faire une autre. Cet aveugle, dit-nous, s'estime autant et plus peut-être que nous qui voyons. Alors, par là, il me semble que Diderot produit délibérément un premier choc chez ses lecteurs en attaquant leur orgueil et en montrant qu'un aveugle peut se considérer comme supérieur alors qu'il est privé d'un sens et évidemment pas n'importe lequel. On a beaucoup étudié comme le sens de la vision joue un rôle tout à fait primordial dans nos sociétés et tout particulièrement à l'époque moderne. Même métaphoriquement en philosophie, la vision est un sens déterminant. Et Diderot va même retourner le couteau dans la plaie d'une certaine manière en poursuivant de manière fictive et imagée, en montrant que des animaux n'auraient pareillement rien à envier à l'homme qui est pourtant, lui, doué de raison. Tous les animaux, nous accordant volontiers une raison avec laquelle nous aurions grand besoin de leur instinct, se prétendront doués d'un instinct avec lequel ils se passent fort bien de notre raison. Vous voyez que texte Diderot remet immédiatement en cause les hiérarchies, poursuivant encore beaucoup plus loin ce qui se passe avec l'aveugle, mais qu'ici, il le fait par un processus fictionnel où il nous amène à imaginer le discours que pourraient avoir des animaux qui regarderaient les hommes avec une certaine supériorité et une certaine condescendance du fait qu'ils se croiraient supérieurs par le fait qu'ils sont doués de raison, alors qu'ils n'ont ni l'instinct ni la force. Mais ce jeu était déjà présent auparavant dans la position de l'aveugle qui se considérait volontiers comme supérieur au voyant. Il était introduit par le si conditionnel qui amenait déjà ce déplacement-là. Et puis il va s'amplifier pour essayer de compenser les choses et de remettre l'aveugle à sa place. Quelqu'un lui demande s'il serait heureux de voir. Comme ça, s'il dit oui, bien sûr, il n'a plus cette supériorité. C'est quelqu'un, ce n'est pas du tout précisé. Ce qui me semble important de voir ici, c'est que c'est présenté comme quelqu'un qui n'est pas Diderot lui-même, qui n'est pas l'auteur. Et la réponse de l'aveugle est, on ne peut plus clair, si la curiosité ne me dominait pas, j'aimerais bien autant avoir de l'ombre. Il me semble que mes mains m'instruiraient mieux de ce qui se passe dans la lune, vous voyez l'exemple, que vos yeux ou vos télescopes. Et puis les yeux cessent plutôt de voir que les mains de toucher. Il vaudrait donc bien autant qu'on perfectionnât en moi l'organe que j'ai que de m'accorder celui qui me manque. Alors, le caractère de fiction est d'autant plus présent que l'exemple donné est loufoque parce qu'on voit bien sûr tout de suite, on imagine les bras de l'aveugle s'allonger pour qu'il puisse aller voir comme mieux que ne le ferait le télescope et aller sentir l'aveugle la lune du bout des doigts. Bien sûr, on pourrait répondre en retour que la vision a l'avantage de la distance par rapport au toucher. Mais Diderot ne donne absolument pas ce contre-argument qui ne va donc pas dans son sens. Il se contente de laisser le lecteur constater que ce n'est pas sans raison qu'un aveugle peut se considérer comme supérieur à nous qui voyons. Et au contraire, il va donner d'autres exemples qui mettent en évidence la supériorité de l'aveugle. Contrairement aux voyants, un aveugle ne se laisse pas impressionner par les signes de l'autorité. Les signes extérieurs de la puissance qui nous affecte si vivement, n'en impose point aux aveugles. Le nôtre comparut devant le magistrat comme devant son semblable. Les menaces ne l'intimidèrent point. « Que me ferez-vous » dit-il à Monsieur Hérault. « Je vous jetterai dans un basse-fosse, » lui répondit le magistrat. « Hé, monsieur, » lui répliqua l'aveugle, « il y a 25 ans que j'y suis. » Alors, vous voyez comme la scène est racontée de manière littéraire et fictionnelle. Or, même si elle a eu lieu, il semble évident que Diderot a dû utiliser ses talents d'écrivain pour faire les répliques et leur donner tout leur caractère spirituel et vivant. On a vraiment l'impression de voir la scène, mais elle est trop belle pour qu'on puisse réellement croire qu'elle s'est réellement passé de la sorte. Évidemment, cette indifférence à l'autorité est loin d'être innocente en philosophie où la raison doit être considérée comme la seule autorité. Et c'est sans doute encore beaucoup plus vrai dans le contexte où vit Diderot. quand on pense combien lui, il a souffert de ces 3 mois d'incarcération, au point que par la suite, il a décidé d'user de davantage de prudence dans ses textes et de cacher mieux ses idées les plus scandaleuses, disons. Et Diderot va pourtant ici encore accentuer les choses, montrant combien même la crainte de la mort est moins importante chez un aveugle. Nous sortons de la vie comme d'un spectacle enchanteur. L'aveugle en sort ainsi que d'un cachot. Si nous avons à vivre plus de plaisir que lui, convenez qu'il a bien moins de regrets à mourir. Alors ici, le si joue un rôle tout à fait différent et permet de fonctionner comme un argument ad hominem. Si on n'est pas encore convaincu qu'il y a une supériorité chez les aveugles, on doit bien reconnaître que donc ils ont moins de plaisir et que par conséquent, ils ont moins de regrets à mourir, ce qui replace une position de supériorité. Et bien entendu, du point de vue de la philosophie, l'indifférence vis-à-vis de la mort n'est pas une qualité anodine. Et Diderot va continuer en montrant explicitement son matérialisme. Alors, on le trouvait déjà un siècle plus tôt, cette même idée, chez Cyrano de Bergerac, mais qu'il avait introduit de manière imagée et fictionnelle dans un roman posthume. Il avait imaginé que lors d'un procès, on conseillait à l'accusé de singer, de mimer exactement les postures de son accusateur pour savoir ce qu'il avait en tête, montrant ainsi que la pensée vient en fait du corps et pas l'inverse, que donc en prenant les positions d'autrui exactement, on saura ce qu'il pense. Il le faisait de manière très imagée. Diderot, lui, le fait de manière, ici, on ne peut plus explicite. Et même en abordant cette question dans les domaines qui, sans doute, sont ceux où on voudrait le plus effectivement garder une vision universelle, puisque c'est la question de la morale et celle de la métaphysique. Comme je n'ai jamais douté que l'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps, je me mis à questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus. Alors, cette idée de l'ancrage de la morale et de la métaphysique dans les conditions extérieures n'est pas non plus totalement neutre. On l'a trouvé déjà d'une certaine manière chez Montaigne quand il se servait des peuples anciens et des peuples qui ont été découverts, et montrant que les mœurs dépendaient moins d'une conception du bien en soi que de l'habitude. Il dit notamment « Les lois de la conscience que nous disons naître de nature naissent de la coutume. » Chacun ayant vénération interne les opinions et mœurs approuvées et reçues autour de lui, ne s'en peut déprendre sans remords, ni s'y appliquer sans applaudissement. Pourtant, le texte de Montaigne n'avait pas semblé véritablement scandaleux, et les essais sont reçus avec indulgence à Rome. Évidemment, les essais sont beaucoup plus volumineux, et ce n'est qu'en 1676, donc encore un peu plus tard, à la demande de Bossuet, qu'ils seront mis à l'index. Or, peut-être que la différence de style ou de contexte joue dans le fait qu'ils n'ont pas posé problème. Peut-être aussi que le fait d'envisager le cas d'un aveugle vivant dans la même société, donc étant quelque part dans le même contexte, et ce qui montre que seuls les sens, quelque part, jouent un rôle dans la conception de la morale, est beaucoup plus gênant pour son époque. Diderot commence de manière relativement légère à montrer que l'aveugle de Clusio, par exemple, en matière de morale, ne ressent pas la pudeur comme nous pouvons la recevoir. Évidemment, ça ne pose guère problème, on comprend pourquoi immédiatement la pudeur n'a pas le même sens. Et il poursuit en montrant que pour un aveugle, le vol est quelque chose de particulièrement problématique et vraiment quelque chose qui va être fortement condamné dans sa morale, à la fois parce qu'un aveugle peut facilement se faire voler, mais aussi parce que si un aveugle voulait lui-même voler, il se ferait prendre tout de suite. Là aussi, ça ne pose pas vraiment de problème au lecteur, dans la mesure où c'est l'aveugle qui est considéré comme, à ce niveau-là, manquant au niveau de la morale. Et puis l'idée que les gens s'adonnent essentiellement à la vertu par peur du châtiment ne pose pas de problème à l'époque, surtout si on considère que ça s'applique à autrui, bien entendu. Alors, les choses commencent pourtant à se corser quand il montre que il n'en va pas de même pour la question de piété et de cruauté, et que celles-ci dépendent essentiellement de l'abus du sang. Comme de toutes les démonstrations extérieures qui réveillent en nous la commisération et les idées de la douleur, les aveugles ne sont affectés que par la plainte. Je les soupçonne en général d'inhumanité. Quelle différence y a-t-il pour un aveugle entre un homme qui urine et un homme qui, sans se plaindre, verse son sang? Nous-mêmes, ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les aveugles? Tant nos vertus dépendent de notre manière de sentir et du degré auquel les choses extérieures nous affectent. Ici, Diderot ne se contente plus de montrer l'infériorité des aveugles, mais montre comment notre sentiment d'humanité, en fait, dépend de nos sens, et il l'explique concrètement en racontant qu'on a du mal nous-mêmes et de la pitié quand on voit un cheval qui souffre, et pourtant on n'hésite pas à écraser une fourmi, alors que la douleur, quelque part, chez l'autre, doit être la même. Et il poursuit de manière de plus en plus claire que la morale des aveugles est différente de la nôtre, que celle d'un sourd différerait encore de celle d'un aveugle, et qu'un être qui aurait un sens de plus que nous trouverait notre morale imparfaite, pour ne rien dire de pire. Alors évidemment ici, les voyants sont considérés comme supérieurs aux aveugles d'une certaine manière, mais ils montrent vraiment que notre morale dépend des sens qu'on a, qu'un sourd aura encore une autre morale, et surtout que s'il y avait un être qui dispose d'un sens supplémentaire face à lui, même l'homme le plus vertueux pourrait passer comme un être manquant profondément de vertu. Autrement dit, la morale est moins le fait d'une âme pure et droite que de la qualité des sens qu'on possède. Et considérer la morale de la sorte est vraiment assez destructeur, et peut-être plus qu'il n'y paraît, car ça veut dire que ce n'est plus notre libre arbitre qui nous permet de choisir le bien plutôt que le mal, mais simplement les sens que l'on a. Ça ouvre donc la voie à un déterminisme moral. Et cela détruit même totalement la perspective d'un Dieu qui requiert que l'homme se comporte bien pour mériter le paradis. Et ça atteint fondamentalement la religion, parce que si la morale dépend des sens que l'on a à la naissance, ben forcément, quelque part, le mal qui est produit par l'homme ne l'est plus véritablement par l'homme, mais l'est par celui qui aurait créé l'homme. Et ça, c'est tout à fait incompatible dans le système théologique de l'époque. On a donc, par ce biais-là, une très profonde remise en cause de Dieu et de la religion par les déplacements opérés par Diderot lorsqu'il traite de la question de la morale. Et ce n'est donc pas étonnant qu'immédiatement après, il envisage véritablement la question de Dieu. Notre métaphysique ne s'accorde pas mieux avec la leur. Combien de principes pour eux qui ne sont que des absurdités pour nous, et réciproquement. Je pourrais entrer là-dessus dans un détail qui vous amuserait sans doute, mais que de certains gens qui voient du crime à tout ne manqueraient pas d'accuser d'irreligion, comme s'il dépendait de moi de faire apercevoir aux aveugles les choses autrement qu'ils ne les aperçoivent. Je me contenterai d'observer une chose dont je crois qu'il faut que tout le monde convienne. C'est que ce grand raisonnement qu'on tire des merveilles de la nature est bien faible pour les aveugles. Alors, apparemment, ici, Diderot se contente de démonter un argument classique à l'époque qui est de prouver l'existence de Dieu par la beauté du mot. Ce qui laisserait donc la possibilité de l'existence de Dieu et supprimerait donc simplement un des arguments. Mais si on regarde bien ce qu'il dit, il laisse entendre qu'il pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'il n'affirme explicitement et qu'il évite de le faire pour ne pas être accusé d'irreligion. S'il n'avait rien dit, on aurait pu imaginer qu'il n'avait pas de raison d'aller plus loin et de remettre véritablement en cause l'être suprême. Mais en justifiant comme ça la brièveté de ce qu'il en dit, il laisse vraiment imaginer toute une série, c'est vraiment encore appel à l'imagination, pour imaginer, pour nous faire imaginer qu'il y a bien d'autres remises en cause au niveau de Dieu dans cette perspective d'un aveugle. C'est une chose de dire que nos moyens limités ne nous permettent pas de comprendre ou de connaître Dieu, et c'en est une autre de montrer que l'idée qu'on se fait de Dieu dépend des sens. Dans le premier cas, on peut imaginer que la limitation de la raison humaine empêche l'homme de connaître véritablement Dieu. Dans le deuxième cas, c'est clairement nos sens qui nous font inventer, concevoir, mais dans le sens quasiment inventer, un Dieu. Et en plus, c'est nos sens, c'est-à-dire notre corps, ce qui est évidemment particulièrement dévalorisé par la religion de l'époque. Alors, de là à imaginer que des animaux se feraient une toute autre image de Dieu, il n'y a qu'un pas qu'il nous a quasiment déjà suggéré de faire au début en nous mettant dans cette position-là. Et bien sûr, on peut aussi imaginer qu'un être qui serait doté d'un autre sens va, quant à lui, imaginer un autre Dieu ou peut-être ne pas imaginez du tout de Dieu. Et Diderot le suggère quand il dit, à propos des aveugles, comme ils voient la matière d'une manière beaucoup plus abstraite que nous, ils sont moins éloignés de croire qu'elle pense. Donc la matière pourrait purement et simplement être à l'origine de la pensée. C'est pas une idée qui vient de Diderot lui-même. On la trouve déjà chez Hobbes et que Diderot connaît très bien puisque c'est Diderot qui écrit l'article sur Hobbes dans l'encyclopédie tout en veillant à exagérer la distance qu'il prend avec lui, ce qui se comprend très bien vu le caractère profondément sulfureux qui règne autour de Hobbes à l'époque, surtout en matière de religion. Et l'idée de la matière qui pense est sans doute l'idée du Léviathan la plus profondément problématique du texte, comme Hobbes lui-même en a conscience quand il rajoute, en parlant de lui à la troisième personne, dans les appendices qu'il adjoint à l'édition latine du Léviathan, il nie qu'il y ait des substances incorporelles. Qu'est-ce que c'était sinon la négation de l'existence de Dieu ou l'affirmation que Dieu est un corps? Alors Diderot, lui, est beaucoup moins explicite sur les conséquences en matière de religion et de mise en cause de la divinité. Il préfère simplement rappeler les persécutions dont sont victimes ceux qui voient d'autres choses. Et une fois de plus, il le fait par le biais des aveugles. Si un homme qui n'a vu que pendant un jour ou deux se trouvait confondu chez un peuple d'aveugles, il faudrait qu'il prît le parti de se taire ou celui de passer pour un fou. Alors, ici, on a un nouveau déplacement. Ce ne sont plus les aveugles qui ont une supériorité sur les voyants. On a un voyant dans un peuple d'aveugles et qui ne peut être compris et qui va être menacé. Évidemment, cette situation, c'est la situation du philosophe dans la société, comme il l'affirme d'ailleurs clairement. Si vous vous prêtez pour un instant à cette supposition, elle vous rappellera sous des traits empruntés l'histoire et les persécutions de ceux qui ont eu le malheur de rencontrer la vérité dans des siècles de ténèbres et l'imprudence de la déceler à leurs aveugles contemporains, entre lesquels ils n'ont point eu d'ennemis plus cruels que ceux qui, par leur état et leur éducation, semblaient devoir être les moins éloignés de leurs sentiments. Alors là, on voit que la boucle est bouclée dans les jeux de déplacement. Ils ont d'abord servi à Diderot à mettre fondamentalement en cause la morale et la religion, et même l'existence de Dieu. Et puis un dernier déplacement, ici, qui renverse une dernière fois les choses et qui ne laisse pas le lecteur dans la position de l'aveugle, mais qui le remet dans celui du voyant, le lecteur perspicace et philosophe, en tout cas par rapport aux autres. Alors je terminerai rapidement en vous montrant que chez Diderot, ici il y a vraiment volonté d'influencer la société, d'influencer la réalité, la position des lecteurs par le biais de l'imagination et de ses déplacements fictionnels. Il n'a pas écrit l'article Imagination dans l'encyclopédie, mais il a écrit l'article Imaginaire. Et dans cet article, il écrit, sous ce point de vue, imaginaire ne s'oppose point à réel, car un bonheur imaginaire est un bonheur réel. Une peine imaginaire est une peine réelle. Que la chose soit ou ne soit pas comme je l'imagine, je souffre ou je suis heureux. Ainsi, l'imaginaire peut être dans le motif, dans l'objet, mais la réalité est toujours dans la sensation. On a donc un lien, une interconnexion entre la réalité et l'imagination. Il faut la réalité pour former des images et pour développer l'imagination, mais l'imagination, de la même manière, va pouvoir transformer la réalité par la manière dont on perçoit véritablement les choses. Alors, pour terminer, je voudrais justement poursuivre par une expérience. Diderot aimait beaucoup ce genre de choses, et vous proposer, comme on a vu l'importance des sens, je vais vous faire... On est dans une société où on imagine Dieu par la vue et par l'audition. On le voit bien au niveau des prophètes. Là, je vais vraiment vous proposer... Je vais vous donner deux odeurs différentes et essayer de vous conseiller d'imaginer les types de dieux que vous... Le type de Dieu que vous pourriez imaginer, je vais vous demander de le distribuer, si on avait, si c'était par l'odeur que l'on peut concevoir ainsi Dieu. Non, il donne la même. Ça, c'est la même, oui, oui. Oui. Voilà l'autre.
Ça, c'est l'autre. Alors, moi, j'en peux bien la même, en fait.
Et voilà la suite de l'autre. Voilà, et donc je vous demande de travailler un peu votre imagination et d'imaginer comment on pourrait percevoir différemment Dieu à partir, si Dieu se révélait par les odeurs et qu'on avait ces deux odeurs-là. Alors voilà, je vous remercie. Il nous reste un peu de temps pour la discussion, mais peut-être ici, plutôt que poser des questions, je vous conseillerais de, enfin, je vous suggérerais de réagir et d'exposer. Imagination, vos représentations plutôt que les odeurs elles-mêmes. J'ai pourtant choisi des odeurs fort différentes pour simplifier l'exercice.
Je me la présente vraiment par des images, encore une fois, vraiment visuelles.
C'est parce que pour nous, on est vraiment baigné dans la prévalence de tout du visuel, évidemment. Et en fait, c'est extrêmement différent pour des aveugles de naissance ou pour ceux qui ont perdu la vue après, bien entendu. Sinon, même s'ils ont perdu la vue très jeune et ont eu, ils n'ont jamais eu une bonne vue, le visuel reste très important. Et le vocabulaire reste par contre tout à fait le même. Ils vont voir un film, même quand ils sont complètement aveugles. C'est comme ça qu'ils parlent et qu'ils eux-mêmes entre eux. Oui.
Sensation qu'on utilise très peu dans notre société.